Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Grands entretiens. Avec ses 7 millions de visiteurs par an, Versailles est l'un des sites les plus visités au monde. Véritable emblème de la monarchie et de l'histoire de France d'avant la Révolution, c'est aussi un lieu qui regorge de mystères et d'intrigues. Charles Perrault l'évoquait ainsi, « Ce n'est pas un palais, c'est une ville entière, superbe en sa grandeur, superbe en sa matière. » Qui étaient alors les habitants de ce palais pharaonique ? Le projet a-t-il été critiqué ? Combien de rois et de reines ont-ils vécu à Versailles depuis Louis XIV ? Et puis des questions plus prosaïques, le château était-il chauffé ? Comment se nourrissaient les souverains ? Toutes ces questions, nous allons y répondre aujourd'hui avec l'historien Mathieu Davigna, qui a publié en novembre dernier un ouvrage intitulé « Vivre à la cour de Versailles », un ouvrage qui répond de façon thématique aux grandes problématiques de la vie du château et notamment de la vie quotidienne. Mathieu Davigna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, historien moderniste, spécialiste de l'histoire de Versailles et à ce titre, directeur scientifique du Centre de recherche du château. Vous êtes notamment l'auteur de nombreux ouvrages sur Louis XIV et Versailles et vous avez notamment co-dirigé un dictionnaire sur Versailles avec Didier Masson.
Raphaël Masson.
Mathieu Davigna, on a écrit des dizaines d'ouvrages sur Versailles. Quelle est l'originalité du vôtre ? Quel est votre projet ?
Mon projet, c'était vraiment de montrer que Versailles est un tout. Vous l'avez dit en introduction avec Charles Perrault, qui parlait d'une ville entière. Et c'est vrai que régulièrement, lorsqu'on parle de Versailles, on parle de Versailles comme en termes de monuments architectural somptueux. On parle de la peinture, on parle de des souverains qui ont vécu. Et l'objet de ce livre, c'était de faire une sorte de synthèse, en fait, sur véritablement les habitants. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a habité, c'est le cas de le dire, de parler des personnes qui vivaient à la cour de Versailles et plus particulièrement des ce qu'on appelle on pourrait appeler les backstage, hein, c'est-à-dire les derrières et les coulisses du château. Et donc là, c'était vraiment de donner à lire à un public assez large une vision globale du château de Versailles entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc c'est essayer de répondre à toutes les questions que se pose le public, aussi bien, vous l'avez évoqué, la nourriture que les toilettes, etc. Donc des choses assez prosaïques, mais qui, je pense, ont un intérêt, y compris dans la grande histoire.
Votre ouvrage, c'est donc sans question et donc sans réponse. Comment les avez-vous choisis, sélectionnés ces questions ?
Alors, les questions étaient très subjectives. C'est vrai que lorsque mon éditeur m'a commandé cet ouvrage, j'étais non pas dubitatif parce que c'est quelque chose que sur lequel je travaille depuis assez longtemps. Néanmoins, je m'étais dit soit c'est trop court, soit c'est trop long. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à lister plus ou moins ces questions, forcément, on fait des choix et qui sont des choix personnels. Donc, c'est ni plus ni moins que des, même si il y a des questions auxquelles j'espère le public s'attend, il y a aussi des questions un peu plus surprenantes que j'ai regroupées dans une sorte de chapitre appelé Curiosa ou Curiosité. Et donc, le but, c'est voilà, à travers 10 thématiques, évoquer ce château dans son ensemble. Donc, je dirais le choix est totalement subjectif et sur évidemment mes connaissances personnelles pour y répondre.
Puis c'est des questions que peut-être le public se pose régulièrement.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, j'ai essayé de penser au public et c'est vrai que en étant depuis maintenant près de 15 ans au château de Versailles, j'ai l'occasion de mener des visites pour des étudiants, différents publics, et c'est vrai que certaines questions reviennent et ça me donne l'idée d'y répondre parce que c'est vrai qu'un historien est parfois un peu solitaire dans sa recherche, et lorsque vous êtes en contact direct avec un public, celui-ci vous renvoie des questions auxquelles vous ne penseriez pas nécessairement, et donc vous vous dites que ça serait peut-être intéressant de les creuser et d'y répondre.
Le titre de votre ouvrage, c'est « La cour de Versailles ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de cette cour, à l'époque du Roi Soleil, je pense que c'est...
Alors le terme de cour, beaucoup d'historiens se sont heurtés à la définition de la cour. Alors, moi je le prends au stricto sensu, pour moi la cour c'est le roi et les habitants qui habitent à la cour. Donc ça comprend aussi bien la famille royale, c'est-à-dire le roi, la reine et le noyau dur, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, mais également les collatéraux, hein, c'est-à-dire les cousins, les condés, les contis, etc., et également toutes les personnes qui vivent à la cour. Donc pour moi, la cour, ce sont les personnages qui habitent à la cour de Versailles. Ce n'est pas une définition de la cour. On sait très bien que la cour peut engendrer non seulement effectivement les personnes qui vivent à la cour, mais également tous ceux qui gravitent dans l'entourage de la cour. En tout cas, pour moi, la cour de Versailles, c'est ça, c'est les habitants de la cour de Versailles, aussi bien donc le roi, les grands seigneurs, que les petits marmitons qui sont dans les cuisines de l'aile du midi.
Combien de personnes à la cour environ ?
Alors, à la fin du règne de Louis XIV, on estime à peu près à 4000 personnes le nombre d'habitants dans le château même, hein, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle le château, et 2740 personnes environ dans les dépendances, c'est-à-dire toutes ces constructions qui sont annexes mais qui sont proches du château, hein, c'est-à-dire le grand commun, aujourd'hui ce qu'on appelle le grand commun, qui est l'ancien hôpital Dominique Claret, l'ancien hôpital militaire, également la grande et la petite écurie, différents hôtels particuliers qui sont aux abords du château. Donc, on estime que 6740 personnes étaient logées aux frais du roi à Versailles à peu près vers 1715.
Ce qui est énorme.
Voilà. Et après, il faut y ajouter évidemment toutes les personnes qui viennent quotidiennement à la cour, que ce soit, on peut penser à Madame de Sévigné, hein, qui se rend régulièrement à la cour, et tous ces gens-là sont appelés généralement des galopins, parce qu'ils prennent un carrosse le matin pour se rendre à la cour. Ça mettait relativement du temps. On est à 20 km de Paris, mais à l'époque, c'est à peu près 2 heures, hein, pour venir. Donc aujourd'hui, on peut mettre 2 heures avec les embouteillages. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'embouteillages, mais c'était long. Donc des gens qui viennent, voilà, plus des visiteurs occasionnels. Donc on peut estimer que dans la journée, on peut tomber sur des milliers de personnes. Donc on n'est pas loin, parfois, des foules qu'on peut voir aujourd'hui encore au château de Versailles.
Vous avez utilisé le terme galopin. Quelle est la différence? Pourriez-vous préciser cette distinction entre logeant et galopin pour nos auditeurs, s'il vous plaît?
C'est vrai que Versailles, pour moi, donc j'ai défini le courtisan beaucoup plus que la cour. Le courtisan étant le personnage habitant au château où loge le roi. Donc ce sont des logeants, c'est-à-dire qu'ils ont un appartement. Alors, ils ont des appartements à différents titres. C'est-à-dire qu'on n'est pas logé gratuitement à la cour de Versailles, à moins d'être membre de la famille royale, hein, où ça représente à peu près une vingtaine de logements pour les princes et princesses. Toutes les autres personnes le sont logées parce qu'elles ont ce qu'on appelle une charge, un travail, une fonction auprès de l'un des membres de la famille royale. Et donc, ce sont véritablement des logeants qui ont soit un appartement qu'on peut appeler un appartement de fonction, soit un appartement de service ou de faveur, un appartement de fonction ou de service, pardon, ou un appartement de faveur. Et ça suppose que certains personnages peuvent avoir 2 logements. C'est le cas, par exemple, je prends l'exemple du capitaine des gardes du corps du roi, qui lui a un appartement de service, c'est-à-dire un appartement, j'allais dire qualifié de petit, qui n'est pas si petit que cela, on pourra en reparler par la suite de ce qu'on appelle petit à Versailles, mais qui est immédiatement proche de l'appartement du roi, parce que de fait, il doit protéger le roi, donc son appartement est auprès du roi. Mais comme c'est le capitaine des gardes est quelqu'un qui sert par quartier, comme beaucoup d'officiers à la cour du roi, c'est-à-dire qu'il sert tous les 3 mois. C'est-à-dire que les charges ont été démultipliées à un moment donné de la monarchie pour gagner de l'argent, c'est-à-dire des charges qui au départ étaient uniques. Finalement, le roi, à un moment donné, a besoin d'argent, donc il multiplie les charges. Et ce sont des personnes qui servent, parce que comme ce sont des charges qui s'achètent, du coup, sur le moment, évidemment, ça crée de l'argent. Et donc, ce capitaine des gardes du corps va loger pendant 3 mois dans l'appartement de service, qui est une sorte d'appartement standardisé, on va dire une chambre d'hôtel améliorée, une suite, parce que là, pour le coup, on est dans des grandes charges. Et le reste de l'année, il va gagner son appartement de faveur, parce qu'il a le droit de rester à la cour. Et donc, lui a 2 appartements. En revanche, on a le cas de charges beaucoup plus minimes, telles que les valets de chambre ordinaires, les huissiers de la chambre, quelques cuisiniers, alors je les appelle cuisiniers, mais ce ne sont pas le terme qu'on a à l'époque, mais on va dire des maîtres d'hôtel, etc., qui, eux, logent dans le grand commun et ont en fait, occupent une seule et même pièce à deux personnes. Donc, ce sont des chambres standardisées d'hôtels type hôtel bas de gamme aujourd'hui, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui sont vraiment standardisées. Et eux, au bout de leurs 3 mois de service, repartent chez eux, donc soit à Paris, soit en province. Et donc, eux, ce sont véritablement les logeants. Et les galopins, c'est le cas de Madame de Sévigné, c'est le cas éventuellement des visiteurs occasionnels. Donc Madame de Sévigné, elle vient régulièrement à la cour parce qu'elle a besoin de rencontrer les personnages de la cour pour évidemment placer des gens de sa famille dans telle ou telle charge. Et donc tout cela, ce sont des galopins. C'est-à-dire qu'ils font l'aller-retour entre Paris et Versailles ou entre Saint-Germain et Versailles, entre les différentes résidences royales.
En fait, c'est tous ceux qui entourent le roi,
oui,
qui ont le droit d'avoir leur logement à Versailles, mais la taille et puis le luxe de la chambre dépendra de leur fonction.
Voilà, tout à fait.
Donc, Versailles, c'est la résidence des rois. On pense très rapidement à Louis XIV, la demeure du roi Soleil. Je vais vous reposer une question que vous avez mise dans votre ouvrage. Combien de rois vécurent à Versailles ?
Alors en fait, on en a 4, puisque c'est véritablement Louis XIII. Hein. Il ne faut pas oublier que Louis XIII a construit le premier château de Versailles, qui sera le point de départ du château de Versailles que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai que Henri IV connaissait Versailles. Il aimait beaucoup, en tout cas, les terres de Versailles pour venir y chasser. Et c'est là qu'il emmène, pour la première fois en 1607, le jeune dauphin, c'est-à-dire le futur Louis XIII, chassé pour la première fois. Donc, il a à peu près 6 ans. Et Louis XIII se souviendra toujours de cette terre qu'il aime énormément, où il trouve que c'est assez agréable, c'est giboyeux, etc. Et il va construire un premier relais de chasse en 1623-1624. Et qui va être rapidement moqué par le public parce que on estimait que cette résidence n'était pas digne d'un roi et que elle ne suffisait même pas pour un simple gentilhomme. Néanmoins, Louis XIII aimait beaucoup plus aimait moins en tout cas le luxe que son fils et il va détruire ce premier château pour le reconstruire en 1631-1634 et c'est le début du château de Versailles que nous connaissons aujourd'hui et que va reprendre après Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Donc on a Louis XIII qui habite pour la première fois dans ce château, ensuite Louis XIV, la cour abandonne temporairement Versailles entre la mort du roi Louis XIV en 1715 et 1722 pour y revenir donc à ce moment-là. Après on a Louis XV puis Louis XVI. Donc ce sont les 4 rois qui ont habité Versailles par la suite au XIXe siècle. Aucun roi reviendra vivre à Versailles, qui était trop marqué comme étant le symbole de la monarchie absolue, même si quelques-uns l'ont caressé et ils ont rapidement fait rétropédalage parce qu'ils ont eu peur d'être taxés de rois réactionnaires.
Le 6 mai 1684, c'est une date symbolique, Mathieu.
Le 6 mai 1682. Donc le 6 mai 1682, c'est la date qu'on retient généralement pour l'installation du roi, du gouvernement et de la cour à Versailles. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit, on reprend régulièrement, on dit que la cour s'installe officiellement à Versailles à ce moment-là. En fait, il n'y a rien d'officiel, c'est simplement les mémorialistes et le marquis de Sourche en particulier qui notent que le roi vient s'installer à Versailles où il désirait d'être depuis longtemps, ou je ne sais plus quelle est la citation exacte. Et c'est à partir de ce moment-là où on voit que Louis XIV, évidemment, va faire de Versailles sa résidence principale. Néanmoins, il n'y a aucun acte officiel qui fait de Versailles la résidence officielle. Ça devient la résidence principale, la résidence de la cour et du pouvoir, mais ce n'est pas dit officiellement.
On imagine bien, à la vue de la taille et de la magnificence du château, que Versailles fut un chantier gigantesque. On parle de 50 ans de travaux. Comment se sont passés ces 50 ans de travaux ? Est-ce qu'on peut parler de conditions de travail difficiles ?
Alors, c'est vrai qu'on a eu 50 ans de travaux. Hein. Louis XIV s'y intéresse très jeune à ce château. Et puis, c'est véritablement à partir de 1660-1661 qu'il commence à agrandir le relais de chasse de son père. Et c'est quelque chose qui va le mobiliser toute sa vie. On termine généralement les travaux en 1712 hein, avec l'inauguration de la chapelle royale. Néanmoins, il y a toujours eu des travaux à Versailles non-stop, donc c'est pour ça qu'on dit plus de 50 ans de travaux, et jusqu'en on a eu jusqu'à 36 000 ouvriers sur tous les chantiers versaillais, qui était donc le sommet de 36 000 ouvriers en 1685, donc qui culminait par jour. Ce sont des conditions de travail assez difficiles parce que le roi est très exigeant et veut que ça aille très vite. Et donc, pour que ça aille très vite, il y a des dérogations de la part de l'Église où l'évêque de Chartres donne des dérogations pour qu'on puisse travailler, puisque Versailles dépendait de l'évêché de Chartres, donne des dérogations pour qu'on puisse travailler et le jour et la nuit, ce qui était impensable, et y compris le dimanche, qui était normalement le jour du Seigneur et le repos dominical. Donc, on a des ouvriers qui sont payés au même tarif que les ouvriers à l'époque. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas des conditions de travail pires à Versailles que sur les autres chantiers. En fait, c'est-à-dire que les conditions sont des ouvriers sont très mauvaises à l'époque, quel que soit le chantier. Oui. Donc, on parle souvent de gouffres financiers, gouffres même humains. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment beaucoup de morts à Versailles, mais il n'y en a pas eu plus au prorata. C'est, pardonnez-moi ce jeu de mots et ce décompte morbide, mais c'est-à-dire que le château et son chantier est tellement immense que évidemment on a beaucoup plus de morts en chiffre absolu que sur un plus petit chantier. Mais Versailles n'a pas engendré plus de morts que sur un autre chantier si on le rapporte à sa taille. Mais donc on a des conditions de travail où les ouvriers peuvent travailler 11-12 heures par jour avec très peu de pauses qui sont extrêmement réglementées. Toute forme de grève, alors on ne parle pas de grève, sont bannies et les surintendants des bâtiments, que ce soit Colbert ou par la suite encore plus Louvois, qui était à la fois secrétaire d'État de la guerre et devenu le nouveau surintendant des bâtiments, c'est-à-dire la personne qui a en charge tous les chantiers en France, vont être extrêmement sévères et vont évidemment punir les grèves, les moindres factions très rapidement en envoyant l'armée dès qu'il y a des revendications salariales ou des revendications de conditions de vie. Parce que évidemment, on a affaire à un surintendant des bâtiments qui se fait sermonner quotidiennement par le roi qui est extrêmement exigeant et donc par un système pyramidal, tout redescend progressivement et au bout de l'échelle, vous aviez les pauvres ouvriers qui évidemment devaient trimer et qui venaient de toute la France et qui étaient déracinés en fait de leur région. La plupart des maçons venaient du Limousin, c'est pour ça qu'on les appelait les Limousins, ils étaient par... appelés les Limousins, et on a donc des conditions de vie très, très difficiles. On n'a pas le droit de leur donner à boire pendant la journée, parce qu'on a peur qu'ils soient complètement ivres. On éloigne toutes les femmes de mauvaise vie des chantiers pour ne pas les détourner de leurs affaires, etc. Donc des conditions extrêmement rudes sur le chantier.
Pour un travail très efficace.
Alors efficace, en tout cas, on peut le dire oui, parce qu'on le voit aujourd'hui, plus de 300 ans après, ce ouais. château est toujours là, et certainement ce rêve qu'a caressé Louis XIV, dont on dit qu'il n'était pas planifié, on sait que Versailles s'est construit de briques et de brocs, on se dit est-ce qu'il a vraiment un plan défini au moment où il commence ce château, et finalement on s'aperçoit que oui, il devait forcément avoir une idée, en tout cas il devait être le seul, et que ses contemporains ne comprenaient pas nécessairement sa volonté. Quoi qu'il en soit, le reproche que lui faisait Colbert comme contrôleur général des finances en 1665, on est au début des travaux, en lui disant que quel malheur que la mémoire du grand roi soit comparée à l'aune de Versailles ou quelque chose comme ça, alors que Colbert, lui, prenait les travaux complémentaires au Louvre, hein, qui était la résidence ancestrale des rois de France. Colbert n'a jamais compris Versailles. Et finalement, on voit qu'il s'est complètement trompé, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il reste, en tout cas, de Louis XIV, c'est Versailles, et c'est effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est 7 ou 8 millions de visiteurs par an.
Oui, oui, Versailles nous fait d'abord penser à Louis XIV, mine
tout à
de
fait.
Rien.
Oui.
Alors, Versailles, c'est un château gigantesque. Est-ce qu'il a été un modèle pour d'autres châteaux européens? Mais pourquoi? Pour quelles raisons exactement?
Alors on parle, c'est vrai qu'on a eu dans les années 1930 de nombreuses études historiographiques qui ont montré que, ou qui ont essayé d'expliquer que Versailles avait été le modèle de tous les châteaux européens qui ont été construits après Versailles. Et qui n'a pas parlé de son Versailles en Allemagne, de son Versailles en Angleterre, de son Versailles en Espagne, etc. Et on se rend compte en étudiant particulièrement ces châteaux que c'est véritablement un mythe. Ce qu'on copie, c'est un concept éventuellement, c'est-à-dire l'idée de créer un nouveau château à la campagne et non plus dans la capitale, et surtout d'y réunir une cour, sa cour, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire qu'au Louvre, le roi vivait, mais il n'y avait pas toute la cour, du moins la cour venait, etc. On était beaucoup plus dans l'esprit de Galopin qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde en Russie Peterhof, qu'on regarde les différents châteaux dont on nous dit être des Versailles, finalement, en regardant de plus près l'architecture, on est loin de l'architecture versaillaise. En revanche, cette imitation, entre guillemets, se retrouve beaucoup plus dans les jardins, où là, effectivement, on a des grandes perspectives à la Le Nôtre. C'est vrai que Le Nôtre, où ses élèves ont été envoyés dans ces différents châteaux pour dessiner les jardins. Et donc là, on a des longues, grandes perspectives, des fontaines, etc. Mais également, ce qu'on peut être un modèle, entre guillemets, et plutôt un mythe, et cette idée de l'art de vivre à la française. Et c'est peut-être ce concept-là qui s'est diffusé plus ou moins dans les différents pays, à différentes époques, et suivant évidemment les rapports diplomatiques qu'on entretenait avec les différents pays. Donc on peut avoir un Frédéric II de Prusse qui est admiratif de Versailles, mais qui est un ennemi politique de la France, et réciproquement, et donc on a, en tout cas, ça demande à être beaucoup plus étudié, mais on peut plutôt parler de mythe plutôt que de modèle.
Oui, le château de Versailles, c'est aussi le symbole d'un nouveau modèle politique,
oui.
plus que le symbole d'une nouvelle architecture. Ou
Exactement, là, parce que surtout que l'architecture de Versailles est quand même assez étonnante, hein. Elle mêle des briques et pierres, elle mêle un style néoclassique à un moment donné avec l'aile Gabriel à la fin du règne de Louis XV, donc on essaye de maintenir ce château bon an mal an au goût du jour, alors que dès le début, il est démodé. Et en tout cas, c'est véritablement, effectivement, comme vous le dites, un concept politique que crée Louis XIV, c'est-à-dire de rassembler en un seul et même lieu, non seulement sa cour et son gouvernement. Et c'est ça qui est nouveau à Versailles.
On va se concentrer sur une pièce en particulier du château de Versailles, certainement la plus connue, la Galerie des Glaces. Vous parlez d'une vitrine technique et artistique du savoir-faire français dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette Galerie des Glaces?
En fait, cette galerie, lorsque Louis XIV a l'idée de l'élaborer, c'est simplement le résultat d'un constat. Il n'y a pas de volonté au départ de se dire « je vais construire une galerie au centre du palais ». C'est simplement parce qu'auparavant, avant la galerie des glaces, vous aviez une terrasse à l'italienne faisait face au château à l'ouest et avec une fontaine en son centre qui était positionnée à ce moment-là. Et on est dans les années 1670. Arrive le moment où Louis XIV a l'idée de faire de Versailles sa résidence principale et vous n'avez pas de communication entre le nord, c'est-à-dire où se trouvent les appartements du roi, et le sud, où se trouvent les appartements de la reine. Et Louis XIV décide de sacrifier sa terrasse à l'italienne parce que le climat français est loin d'être le climat italien, donc il pleut régulièrement. Vous aviez des infiltrations d'eau dans la galerie juste en dessous qu'on appelait la galerie basse et c'était extrêmement difficile de l'entretenir. Donc, il sacrifie cette sorte de pergola pour une galerie et qui deviendra ni plus ni moins en fait que le grand axe de communication entre le nord et le sud pour se rendre de chez le roi à chez la reine. Et donc, c'est le hasard qui fait que cette galerie soit centrale. Généralement, dans les palais français, les galeries étaient latérales. Et donc, Louis XIV fait aussi le choix de se priver de la vue sur ses jardins, parce que ses appartements privés donnaient sur l'ouest des jardins et donnent cette galerie. Alors après, il lui a donné évidemment un décor somptueux, parce que c'est Louis XIV, il faut rappeler qu'il est quand même un petit peu mégalomane, et notamment lorsque se pose la question, entre autres, de la voûte et de ce qu'on va représenter dans la voûte, on lui a proposé dans un premier temps une galerie d'Apollon. Il est vrai qu'il y en avait une qui avait été commencée déjà au Louvre, mais qui n'était pas achevé. Et surtout, il y en avait une à Saint-Cloud, chez son frère. Et donc, il y a une sorte de concurrence fraternelle, puisque Mignard avait fait une superbe galerie d'Apollon à Saint-Cloud. Et lorsque Louis XIV l'avait vu, il avait été un peu piqué de voir cette somptueuse galerie d'Apollon. Il faut rappeler qu'Apollon, c'est le dieu des poètes, le dieu du soleil, auquel Louis XIV a été associé très jeune. Et on lui propose également une galerie d'Hercule qu'il refuse. Et c'est lui qui va imposer à Charles Lebrun, donc son premier peintre, de faire une galerie qui lui est entièrement dédiée, où il va être représenté directement sur le plafond, ce qui n'était pas le cas auparavant dans le grand appartement du roi, où il y avait simplement un système allégorique, où on voyait figures de l'Antiquité romaine, et en les voyant, on se disait « Ah oui, Louis XIV pourrait faire aussi bien que les Romains ». Et là, Louis XIV, on est en 1678-79, il vient d'être qualifié de Louis le Grand par la ville de Paris, et donc, il n'a plus aucun scrupule, il estime qu'il a surpassé les Romains, et donc il demande que soient représentés ses hauts faits depuis sa prise de pouvoir personnelle en 1661, après la mort de Mazarin, le cardinal Mazarin, qui était son principal ministre, et 1678, donc au début de la construction, qui était la paix de Nimègue, la fin de la guerre de Hollande. Donc, non seulement on a un superbe plafond de Charles Lebrun, et après, on va utiliser tous les savoir-faire français, que ce soit dans les marbres, moi pour les marbriers. Alors les marbres ne viennent pas forcément tous de France, hein, mais on va mettre en avant les marbres français, mais également les marbres italiens, etc. Et surtout dans les miroirs, puisque ce qui donne le nom de cette grande galerie à Galerie des Glaces, ce sont évidemment les 347 miroirs qui sont un savoir-faire qu'ont acquis les Français après l'avoir volé aux Vénitiens. Puisque Louis XIV avait envoyé des espions pour depuis une vingtaine d'années, pour une petite quinzaine d'années plutôt, pour apprendre le savoir-faire italien. Donc, on va faire ces miroirs qui ne sont pas extraordinaires, parce que la technique, alors là on rentre dans des choses un peu plus précises, du coulage, c'est-à-dire de la manière de faire des miroirs beaucoup plus grands, sera inventée une dizaine d'années plus tard. Donc, la Galerie des Glaces ne bénéficie pas encore de miroirs immenses, mais ce sont... La taille des miroirs de la Galerie des Glaces sont telles qu'on pouvait les faire, les plus grands qu'on pouvait faire à cette époque-là. Et c'est surtout la profusion et cette idée d'en mettre 347 parce que ça coûte excessivement cher. Et donc, lorsqu'on arrive dans la Galerie des Glaces, on ne pouvait être qu'époustouflé et de se dire que ce roi était extrêmement riche. Donc, c'est ce que veut faire Louis XIV, c'est que les gens, en entrant dans la galerie, soient totalement soufflés par ce qu'ils voient. Et donc, il y a une volonté de Louis XIV de montrer que non seulement il a les moyens de se construire une pareille galerie avec des matériaux excessivement chers, et donc il met en avant dans cette galerie les savoir-faire français, parce que même si ce ne sont pas forcément des matériaux français, ce sont des artistes français qui travaillent dans la galerie.
Alors, est-ce que cette profusion et ce luxe qui sont quand même assez incroyables et au reflet finalement de l'ambition de Louis XIV attiraient des touristes, des visiteurs? Est-ce que les gens voulait venir à Versailles au moins pour voir?
Il faut savoir que Versailles, à partir du moment où Louis XIV décide d'en faire sa résidence principale au mois de mai 1682, Versailles est ouvert au public. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui, mais la tradition de la monarchie française voulait que le roi soit accessible à ses sujets. Et Louis XIV va porter à son paroxysme cette idée, c'est-à-dire que il fait tout en public, donc ça, je ne sais pas si on y reviendra, mais il se lève en public, il mange en public, il va à la messe en public, et de fait... quiconque était bien habillé avait le droit de venir à Versailles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les hommes, ça voulait dire porter chapeau et épée. Donc, on peut imaginer qu'il y avait une sorte de physionomiste à l'entrée du palais. Pour les femmes, c'est un peu moins clair, mais on imagine que c'était être bien habillé. Donc, voilà. Et on a le droit de se promener dans le château de Versailles, partout, y compris dans la chambre du roi, à condition évidemment qu'il ne soit pas dans la pièce qu'on visite. Alors il y a très peu de parties qui sont fermées. Aujourd'hui, ça correspond aux appartements de Louis XV et de Louis XVI, mais donc là, c'était vraiment la partie qui était la partie nord sur la cour de marbre, hein, dans le corps de bâtiment en retrait de nord de la du corps central. Mais tout le reste du château, y compris sa chambre, sont ouverts au public et donc sont édités à partir des années 70-80 différents guides où on invite le visiteur à regarder tel ou tel mur, tel ou tel tableau. On dit, regardez, ici, vous avez un magnifique Caravage, etc. Donc, il y a des guides de visite et on imagine déjà, à l'époque, une foule de touristes. Alors, cette accessibilité, évidemment, est limitée. C'est-à-dire qu'on a le droit de parler au roi, mais uniquement s'il vous adresse le premier la parole. Donc, ça limite, évidemment, la discussion. Mais c'est comme aujourd'hui, en fait, vous avez le droit de parler à la reine d'Angleterre uniquement si elle vous adresse la première la parole. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose sous le règne de Louis XIV.
Le château de Versailles est en fait visité depuis le XVIIe siècle. C'est pas du tout nouveau.
Non, c'est pas du tout nouveau. Alors, il y a beaucoup plus de visiteurs aujourd'hui qu'il devait y en avoir à l'époque. Mais ça n'empêche qu'on a des récits de visiteurs dès le XVIIe siècle qui sont venus à Versailles parce qu'ils veulent venir voir le château dont on leur parle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une propagande qui est faite à ce moment-là où Louis XIV diffuse évidemment l'image du château à travers des gravures et qu'il est Il inonde toute l'Europe de ses gravures pour montrer qu'il est le, comme on disait à l'époque, plus grand roi du monde.
Alors on imagine le nombre de, la densité de circulation au sein du château. Comment fonctionnait la sécurité du roi à ce moment-là?
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à imaginer, c'est-à-dire, on vient de le dire, Louis XIV permet qu'on vienne le voir à Versailles. Et c'est comme si aujourd'hui on se disait l'Élysée ça appartient en français, je vais aller visiter l'Élysée aujourd'hui. Donc évidemment ça suppose des questions de sécurité assez importantes. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de corps de garde qui sont aux abords déjà du château. Alors tous ceux qui sont les gardes qu'on appelait les gardes du dehors, le dehors étant le dehors du château, c'est-à-dire à l'extérieur de la grille aujourd'hui qui est la grille royale, ce sont des régiments d'infanterie. Et dès qu'on rentre à l'intérieur du Louvre, parce que par extension, on appelait le Louvre toute résidence dans laquelle demeurait le roi. Dès qu'on entrait donc dans le Louvre, on avait les gardes du dedans, avec différents corps de garde, les gardes de la porte, les gardes de la prévôté, etc., qui surveillaient les différentes entrées. Et finalement, le roi, lorsqu'il se déplace, est encadré par un carré de garde. Il a son capitaine des gardes du corps qui est derrière lui, il a son capitaine des gardes suisses qui est devant lui, son enseigne des gardes du corps à sa droite, l'enseigne des sangs suisses à sa gauche, plus tout un cordon, ce qu'on appelait la garniture à l'intérieur du château. Donc il se déplace normalement avec tout ce... Mais ça n'a pas empêché quelques attentats.
De fait, oui, tout à fait. Donc dans votre ouvrage, ce que je disais au début, il y a plusieurs parties et il y en a une qui m'a particulièrement interpellée sur le logement et le confort à Versailles. Alors vous répondez à la question suivante, Versailles était-il chauffé et en fait comment? Parce qu'on imagine que quand il faisait moins 10,
oui.
Ça ne devait pas forcément être très agréable dans les salles.
Alors évidemment, c'est le système de chauffage est assez limité, mais ça n'empêche qu'il existe. Donc on a évidemment des cheminées. Dans le premier lieu, ce sont les cheminées. Sauf que lorsque vous avez des pièces qui font 150 mètres carrés et que vous avez une cheminée, nous on va prendre les cas de 150 mètres carrés, mais ne serait-ce que la chambre du roi telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est la dernière chambre de Louis XIV, elle fait près de 92 mètres carrés. Aujourd'hui, on y voit deux cheminées. À l'époque de Louis XIV, il n'y en avait qu'une. Et elle fait plus de 10 mètres sous plafond, elle est exposée plein est. Donc on imagine que malgré le feu de cheminée, à moins de se coller au feu de cheminée, à l'autre bout de la pièce, il faisait relativement froid. Alors ça, c'est pas quelque chose qui gênait énormément Louis XIV, puisque Louis XIV, on nous dit qu'il ne craignait ni le chaud ni le froid. Donc lui, il était capable d'ouvrir même par moins 10, moins 20 en plein hiver, ce qui sera le cas en 1709. Du terrible hiver 1709 où on a des températures qui tombent à moins 20 degrés pendant trois semaines. On nous dit que le vin gèle dans les verres, que une personne écrit « Monsieur, les nouvelles sont courtes car l'encre gèle au bout de la plume », etc. Donc c'est pas quelque chose qui gêne Louis XIV. Donc on a ce système de cheminée et surtout à l'intérieur des chambres, on essaye de faire des sortes de niches. C'est-à-dire que le lit du roi, si aujourd'hui tel qu'on le voit, il y a des lourds rideaux, ce sont des lits où on voit avec des grands rideaux, énormément de couvertures, etc. C'est parce qu'on essaye de se protéger dans son lit en fermant les rideaux. Moi, ces lits à baldaquin étaient aussi pour du confort. Après, on a des systèmes d'appoint avec des sortes de, on va dire, de radiateurs. Nos radiateurs électriques d'appoint aujourd'hui, qui sont les braseros, qui sont des sortes de barbecue, pas barbecue, mais vraiment des braseros, c'est-à-dire des espèces de réceptacles dans lesquels on met des braises pour les mettre le plus proche de nous, pour se chauffer. On chauffait et on bassinait les lits également avant de se coucher pour les chauffer. Et puis, il y a eu des sortes de chauffage au sol qui ont été inventés, ou en tout cas tentés, dans la galerie des glaces, c'est-à-dire qu'à l'entresol, c'est-à-dire entre le parquet le plancher de la galerie des glaces et le plafond de la galerie basse, vous savez, des entresols, et on a tenté de faire des chaudières, c'est-à-dire de par en faisant des ouvertures, de faire rentrer de l'air chaud dans la galerie des glaces. Alors on ne sait pas si ça a fonctionné, ça ce sont des informations qu'on trouve dans les comptes des bâtiments du roi, en revanche c'est évoqué. Donc effectivement, mais ce sont des gens qui étaient habitués au froid, donc ils avaient des couches et des couches de vêtements, et après, malgré la taille de ces pièces, on essaye de se ménager des espaces beaucoup plus réduits, dans les ruelles des lits, etc., pour avoir plus chaud.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur la nourriture à Versailles ? Est-ce que c'était bon ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de différence entre ce que mangeait le roi et ce que mangeaient les courtisans ? Et qui pouvait finalement se nourrir à Versailles ?
Vraisemblablement, à la table du roi, ça devait être bon. Il y avait des marchés de pourvoirie pour les différents aliments. Il y en avait pour le pain, pour le vin, pour les viandes, etc., pour le poisson. Et tout cela était contrôlé, non seulement en termes de qualité, pour le roi. On sait que la viande du roi, ce qu'on appelait la viande du roi dans sa globalité, il y avait un contrôleur de la bouche qui en vérifiait la qualité. Et on peut supposer, en tout cas, je ne sais pas si aujourd'hui, si nous mangions ce que mangeait Louis XIV, parce qu'on sait que c'était plutôt des ragoûts, des choses qui étaient extrêmement roux, alors des viandes faisandées, etc. Je ne pense pas que le goût d'aujourd'hui soit habitué à ce que mangeait Louis XIV. Néanmoins, c'est ce qui était considéré comme le plus raffiné à l'époque. La nourriture des courtisans, en tout cas des grands courtisans ou des tables fournies par le roi, devait être sensiblement du même niveau, en tout cas qualitatif, que ce que mangeait le roi. Alors, en termes quantitatifs, ça était beaucoup moindre, puisqu'on sait que le service du roi, la table royale, disposait de 5 services, c'est-à-dire qu'on lui présentait successivement 5 services, non seulement dans un premier temps ce qu'on appelait les oeils, c'est-à-dire les soupes, les potages, etc., ensuite les entrées, ensuite les rots, c'est-à-dire les pièces rôties, c'est-à-dire la viande, ensuite les entremets, comme son nom l'indique, c'est-à-dire les entre-deux-mets, et enfin ce qu'on appelait le fruit, c'est-à-dire le dessert. Et chaque service, donc de ces 5 services, comportait une 20aine de plats. Donc c'était extrêmement abondant, et le roi était, tout comme son fils, extrêmement gourmand, mangeait beaucoup, comme monsieur, c'est-à-dire le frère du roi, le duc d'Orléans. Et à la mort du roi, on a découvert de toute façon qu'il avait le ver solitaire, donc il pouvait manger sans faim. Voilà, donc on a le roi, évidemment, une nourriture très importante. Sa table servait de desserte pour certains de ses domestiques. C'est ce qu'on appelait la table du cerdeau. Certains de ses domestiques, c'est-à-dire les cerdeaux, ce sont les officiers qui desservaient la table du roi, bénéficiaient des restes de la table du roi, sachant que ce sont des plats qui, la plupart du temps, n'avaient pas été touchés. Donc ce n'est pas forcément quelque chose où on imagine où le roi a commencé à manger une assiette et les serviteurs vont manger les restes. Donc voilà. Après, vous aviez plusieurs autres tables, plus ou moins abondantes et qualitatives. Mais là, il y a moins de raffinement parce que pour les officiers inférieurs, évidemment, ce sont des menus qui sont pratiquement décidés à l'année. Et là, on a, moi, je veux dire, un self amélioré, je vais dire, pour les officiers inférieurs. Et puis après, vous aviez des tables d'hôtes qui était tenue par les grands officiers et qui était ouverte pour les visiteurs de passage, comme les ambassadeurs ou les gens comme ça.
Les repas, les couchers, les sorties, finalement toute la journée du roi et des courtisans étaient réglées par ce qu'on appelle l'étiquette. Est-ce que vous pourriez définir l'étiquette pour nos auditeurs et qui est-ce qui contrôlait, réglait cette étiquette à Versailles ?
La vie du roi est effectivement très ritualisée et soumise à ce qu'on appelle l'étiquette. Et c'est très difficile de définir ce qu'est l'étiquette, sachant que ce sont des règlements non écrits. Parce que vous aviez des grands cérémoniales, mais qui évoquent, on va dire, la globalité de la vie de la cour, etc. Mais précisément, l'étiquette, c'est toute attitude à avoir en présence du roi ou l'un des membres de la famille royale, mais une attitude codifiée et non écrite. Donc c'est quelque chose qui évolue, si ce n'est chaque année au moins, même voire quotidiennement, c'est-à-dire que le roi adapte les situations, adapte l'étiquette en fonction des situations. Et quelqu'un qui est bien né, c'est-à-dire qui vit à la cour et qui est habitué au code de la cour, s'enrichit quotidiennement pour savoir, et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui vient de sa province et qui va être extrêmement moqué parce qu'il ne connaît pas les codes de l'étiquette. Donc cette étiquette, ce sont non seulement les cérémoniales très connues, codifiées, mais toutes les attitudes subtiles qu'il faut avoir en présence du roi. Et donc c'est vrai que Louis XIV est quelque chose qui... c'est quelque chose pour Louis XIV qui est très important parce que ça permettait de tenir la cour. Alors ce n'est pas lui qui a inventé l'étiquette hein, à la cour, c'est quelque chose qui est plutôt né à la fin du XVIe siècle, au sortir des guerres de religion. Et c'est Catherine de Médicis qui avait dit à ses fils qu'elle trouvait que les compagnons du roi étaient bien trop... cavalier, familier, il rentrait comme ça dans la chambre du roi, il n'y avait aucun code, etc. Et Catherine de Médicis avait demandé à ses fils, à Charles IX et à Henri III, de créer des règles bien précises pour mettre une distance entre le souverain et ses sujets, même si ses sujets sont les membres de sa famille ou ses plus proches compagnons. Et finalement, Louis XIV aura très bien compris l'intérêt politique de mettre cette distance entre lui et tout autre sujet, y compris son frère, pour exister comme primus inter pares, c'est-à-dire comme le premier parmi ses pairs. Et Louis XIV a une conscience extrêmement exacerbée de son état, de son statut de roi très chrétien. Il est persuadé qu'il a été choisi par Dieu, qu'il est le représentant de Dieu sur terre, etc. Donc c'est quelque chose auquel il est extrêmement sensible et il est extrêmement observateur. Donc lors de son lever, lors de son coucher, il observe qui est là, qui n'est pas là, comment tout se passe. Et lorsque on vient lui demander une grâce, si jamais c'est quelqu'un qui n'est pas assidu à tous les grands temps de cour, c'est-à-dire les levers, les couchers, les messes, etc., il répondra « c'est quelqu'un que je vois peu ». Et quand il y répond « c'est quelqu'un que je vois peu », on sait très bien qu'il ne donnera pas suite à la demande qui lui a été faite.
Oui, Louis XIV, il maîtrise très bien la notion de personnalité publique,
oui.
Finalement.
Oui, tout à fait.
Alors Versailles, c'est un monde à part. Avec des lois particulières, donc notamment l'étiquette. Et dans votre ouvrage, vous parlez de la pratique du jeu, donc au sein des nombreux divertissements de Versailles, qui étaient autorisés à Versailles, mais qui étaient interdits dans tout le reste du royaume.
Oui, il y a des autorisations à Versailles, c'est-à-dire que l'Église, en fait, classait les jeux en trois catégories. Il y avait les jeux qui étaient totalement admis, qui faisaient appel à l'intelligence, etc., et que l'Église tolérait. Ensuite, vous aviez une catégorie intermédiaire qui faisait appel non seulement à l'intelligence, mais aussi au hasard. Alors là, l'Église est un petit peu plus circonspecte, mais les tolère. Elle les autorise pas, mais elle les tolère. Et enfin, vous aviez une dernière catégorie qui, là, pour le coup, était proscrite par l'Église, qui étaient les jeux qui faisaient totalement appel au hasard. Et c'était le cas de différents jeux, comme la bassette, l'ombre, qui étaient des jeux dont je serais bien incapable de vous expliquer les règles parce que c'est tellement compliqué, mais qui faisaient fureur à Versailles. Et c'est par exemple, aujourd'hui, si on imagine une bataille fermée, lorsque vous retournez un roi, et qu'en face, la personne retourne en face d'elle à une dame, c'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce que le hasard a fait que vous aviez un roi et que votre adversaire avait une reine. Et à Versailles, vous avez beaucoup de jeux avec beaucoup d'argent et c'est autorisé à la cour. Et on a le cas de Madame de Montespan, qui était la grande favorite de Louis XIV, qui était capable de perdre jusqu'à 1 million de livres par soir. Alors pour donner une équivalence de ce que ça représentait. On peut pas donner une équivalence livre-euro, mais une belle maison à porte cochère à Paris, c'était 20 000 livres. Un beau château aux alentours de Versailles, alors pas Volvicomte, mais un château correct, c'est à peu près 200 000 livres. Un hôtel particulier à Paris, alors pas l'hôtel de Soubise, pas les grands hôtels comme ça, c'était 50 000 livres. Et elle perd 1 million de livres en une soirée. Donc, assez rapidement, Louis XIV va prendre la décision parce que même si on nous raconte qu'elle jouait, elle ne s'arrêtait pas de jouer tant qu'elle n'avait pas tout regagné. Parfois, évidemment, elle avait des pertes qu'elle ne pouvait pas payer et que payait le roi. Et donc, à un moment donné, Louis XIV va interdire ces fameux jeux de la bassette, de l'ombre, etc. Parce que il est dans une période où on est au début des années 1680, 1685, où il est beaucoup plus dans une autre vision que la vision divertissante qu'il avait à Versailles. Et donc, ces jeux vont disparaître, mais pas totalement. Le jeu va continuer à Versailles parce que c'est quand même un moyen également de tenir sa cour et d'éponger les dettes de ses courtisans et donc de tenir entre ses mains ses courtisans.
Oui, et finalement, il reste plein d'autres divertissements à Versailles qui étaient un moyen, comme vous le dites dans un de vos chapitres, d'être et de paraître.
Oui.
Merci beaucoup Mathieu Davigna. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Vivre à la cour de Versailles en 100 questions ». 100 questions, 100 réponses pour vous permettre, chers auditeurs, de découvrir la demeure et l'univers du pouvoir royal. Un ouvrage que vous trouverez aux éditions Talendier. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.